Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 45 de ce vendredi 15 mars. Nous avons les gars de la presse qui sont là, c'est moi, Olivier Larange. Salut, c'est moi, Olivier.
Salut.
Nous avons Richard Labbé. Salut, Richard.
Salut, Jérémy.
Comment ça va, Richard?
Ben, très bien, Jérémy.
Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de même, ça me tentait. pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là. Salut, Antoine.
Salut les gars, c'est, voulez-vous qu'on vous laisse en tête à tête?
Ah non, mais on dit fun, qu'est-ce que tu veux, on s'amuse comme ça une fois de temps en temps.
C'est sûr.
Ben, parlant de s'amuser, je dirais pas que c'était une partie de plaisir, mais clairement, le Canadien a joué quand même un pas pire match. C'est une défaite de 2 en prolongation face aux Bruins de Boston. Et là, je fais un tour de table là-dessus. Est-ce que ça, c'était un match significatif? Je commence avec Simon-Olivier Larange. Est-ce que c'était significatif, ce match-là?
Absolument. C'est-à-dire, évidemment, pas pour le classement, parce que même si Caden Goulet a dit après le match qu'il espérait toujours se faufiler en série, j'ai comme trouvé ça cute un
ben
peu.
Ben oui, il est fin, il est fun, ben oui, le jeune.
Il est tout petit. Mais non, c'est ça. Donc, évidemment, pas pour le classement, mais pour la valeur qu'on peut encore donner au match, tout à fait. J'ai trouvé le Canadien très patient, très discipliné. Et comme dirait Martin Saint-Louis, chaque fois qu'il utilise le mot discipliné, pas au sens des punitions, mais au sens vraiment de, tu sais, d'être organisé, de pas paniquer, de pas se laisser de pas tomber dans les pièges des Bruins. Et même si c'était clair que les Bruins étaient une meilleure équipe que le Canadien à plusieurs égards, le Canadien a tenu son bout. J'ai trouvé comme rarement cette saison. Évidemment, il y a les 10 premières minutes qui seront pas sur le DVD de fin d'année, là. Mais ouais, j'ai trouvé que le Canadien avait joué de manière très très pertinente. Et oui, ça donnait beaucoup de valeur à ce match-là et de signification.
Il y avait de la structure dans ce match-là. C'est ce qui a fait la différence. C'est de la structure sur, j'allais dire, 60 minutes, disons sur 50 minutes, mettons. 50 minutes là, jusqu'à la fin.
Moi, c'est 50 dernières, pas 50 premières.
Ça c'est bon, c'est un excellent point. Richard Labbé, Richard, est-ce que c'était un bon match de hockey?
Absolument. Ben, si on parle seulement en termes de spectacle, moi, j'ai trouvé que ça a été la meilleure soirée de l'année au Centre Bell. J'ai aimé le spectacle sur la glace. L'ambiance était à son comble. C'était vraiment le fun dans la place. On sait qu'il n'y aura pas de série, malheureusement, ce que Kaden Primeau peut en penser, mais hier soir, ça avait l'air un peu de ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la soirée en général. Pour le Canadien, ce que ça veut dire... Tu sais, Martin Saint-Louis a parlé souvent récemment du fait que, là, je le cite, il dit on est là. Tu sais, c'est exactement ça. Ça fait déjà plusieurs matchs que le Canadien joue contre de meilleures équipes et le Canadien compétitionne, tient tête à ces équipes-là. Alors ça, on met ça dans le degré, dans le tiroir des choses positives, c'est-à-dire que ça laisse entrevoir quand même une certaine progression. L'autre côté, ben regarde, c'est un petit peu fatigant. Je pense que JR, on en parlait la semaine passée, mais éventuellement, pour que le Canadien apprenne à gagner, il faut que le Canadien apprenne à gagner ces matchs-là. Vous venez de le dire, ils ont pas mal été les meilleurs dans les 50 dernières minutes de jeu, mais le but, là, à Sommoir, le but qui vient couper les jambes d'adversaire, il vient pas. Et puis là, ben on se retrouve en prolongation, Marchand saute sa glace, 2-1, DeBrusque qui marque. Tu sais, C'est plate de finir comme ça quand tu as l'adversaire dans les câbles et que tu n'es pas capable de porter le coup décisif. Il faut vraiment que le Canadien s'améliore à ce chapitre-là.
Richard, j'ai l'impression que le Canadien a joué un match, pas nécessairement pour trouver le moyen de marquer au moment opportun, mais pour limiter les chances parce que c'est extrêmement serré. Regarde, c'est 22 lancés seulement accordés aux Bruins de Boston. Clairement, ce club-là s'est arrangé pour limiter les troubles face aux Bruins.
Oui, ben oui, ça peut être un point positif encore. Là-dessus, il y a un 4 minutes, là aussi, il ne faut pas l'oublier. Sur un bâton élevé, on a réussi à se défendre à 4 contre 5. Ça, c'est pas évident avec l'équipe l'autre bord qui a le talent qu'elle a. Donc oui, ça fait partie des points positifs. Mais encore là, quand tu compétitionnes comme ça, quand tu pousses l'adversaire vraiment dans ses derniers retranchements, il faut que tu passes le coup de grâce. Et le Canadien n'est pas capable de le faire depuis le début de l'année. Est-ce que c'est un problème d'effectif? Encore une fois, hier, le premier trio a très bien joué, mais on a l'impression qu'à un moment donné, ça prend de l'attaque de quelqu'un d'autre et ces buts-là ne viennent pas. Le trio d'Armia a très bien joué aussi. Armia qui a 3 tirs exceptionnels hier soir, mais ça prend des buts éventuellement. Pour gagner ces matchs-là, c'est bien beau. On les a, on les tient, on compétitionne nez à nez pendant 60 minutes. Mais éventuellement, pour franchir l'autre étape, là, Jérémy, il faut que tu les gagnes, ces matchs-là.
OK. Là, pendant qu'on se parlait, Simon-Olivier veut me reprendre. C'est pas 22, c'est 24 lancés, hein, Simon-Olivier?
Oui, c'est ça, c'est 24. Okay. C'est correct, l'esprit est le même.
Mais tu sais que la première période s'est terminée 17, c'est ce qui était marqué, puis on est revenu avec un 9-7 finalement. On avait enlevé enlever un lancé aux Bruins de Boston.
Écoute, fait que... les Bruins ont 8 de leurs 24 lancés dans les 10 premières minutes. Fait que ça montre à quel point le reste du match a été, quand on disait significatif ou que le Canadien était structuré, si mes calculs sont exacts, c'est 16 tirs dans les 50 dernières minutes, ou 52, 53, je sais pas combien de temps durait la prolongation, contre les Blues de Boston, là, pas contre les très tristes et pauvres Ducks d'Anaheim qui ont décidé de pas jouer au Centre Bell il y a un mois. Fait que je pense que ça rajoute encore à, je dirais pas l'exploit, parce qu'ils ont quand même perdu, mais ouais, à l'importance de cette performance-là.
Antoine, je veux savoir une chose, c'est que le Canadien nous a habitués depuis le début de l'année à perdre le contrôle d'un match à un moment donné, ne pas être en mesure de contrôler le cadran, ne pas contrôler ses émotions, être un peu désorganisé par moment. Ça n'a pas été le cas pendant cette rencontre-là. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi, là, on a été stratégique et organisé pendant toute la rencontre contre les Bruins?
Ben, parce qu'on le sait, les 10 premières minutes du match, on a ouvert le jeu puis on s'est fait brûler totalement. Donc, tu apprends au début de match, tu comprends que si tu veux jouer de cette manière-là. Puis dans le match d'hier, moi, j'ai vu Mike Matheson quasiment, puis c'était un petit peu... pas nécessairement après le 10 minutes, mais en guirlandais son banc. Puis on le voit rarement faire ça. Puis pour moi, tu sais, ça a été catalyseur un petit peu de « on se replace », parce que sans ça, le Canadien n'était tout simplement pas là. Les 10 premières minutes, les rondelles n'allaient pas dans le fond de territoire. On avait des revirements à profusion. Et contre une équipe aussi bien organisée, structurée que les Bruins, Quand tu fais ça, ben c'est une recette de malheur. Là. Ça, tu te tires dans le pied complètement. Puis c'est pour ça que le Canadien, selon moi, a su resserrer son jeu défensif et a su se replacer. Parce que s'il jouait de la même manière, ben le Canadien n'a pas la capacité de jouer à armes égales à ce moment-là. Donc, tu es obligé de fermer le jeu. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ça a donné un bon match. De là à dire, comme Richard, que c'est le plus beau spectacle de l'année, mettons que... on étire l'élastique quand on dit ça. Il y en a eu d'autres, des beaux matchs, surtout qui se sont terminés avec une victoire. Mais ça a été un bel effort quand même d'équipe. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu en gros. Il y a bien entendu des choses à améliorer. Puis c'est sans avoir d'informations à l'interne, on dirait qu'on essaie de changer 2-3 scénarios en zone défensive. J'ai l'impression qu'on essaie de créer certains surnombres. Donc, peut-être que ça va faire des petits, ça aussi. Peut-être qu'on va se dire, on va continuer dans cette veine-là. Parce que selon moi, pour que le Canadien, puis on en a parlé de long en large et en travers de leur jeu défensif, pour devenir une équipe compétitive, le Canadien va devoir mettre un coup de volant ou un coup de barre pour replacer la situation. Parce qu'il y a certains aspects du jeu qui sont très bons, celui avec la rondelle. Puis celui sans la rondelle, ben, des matchs, ça va être bon, des matchs, ça va être moins bon. Puis quand tu joues avec le format que le Canadien joue, pour moi, tu peux pas avoir de régularité. Si tu as des joueurs qui sont pas là un soir, ben ça te fait mal au système au complet. Tu n'as pas de filet de sécurité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils devraient changer leur système.
Est-ce que je donne un droit de réplique à Richard Labbé pour riposter pour dire que le match était le fun?
Il n'y a pas de réplique, j'ai raison, donc je vais
Ah, j'aime ton humilité, Richard. C'est ça qui donne toute ta belle personne que tu es. Hey, ceci étant dit, hey, juste un point, les gars, là. Sincèrement, les Blues de Boston, là, je pensais qu'ils étaient pour traverser le Canadien. OK, le Canadien joue un bon match, mais Boston, là, c'est-tu moi où on n'avait pas de jambes, la rapidité n'était pas là, on avait de la difficulté à compléter des passes. C'est pas le match de l'année pour les Blues, Simon Levy?
Non, pas du tout. Puis en fait, c'est un peu le signe d'une bonne équipe, c'est-à-dire qu'en connaissant un match ordinaire, ils ont gagné. Et tandis que le Canadien ne peut pas se permettre de connaître des matchs ordinaires parce qu'on le sait que ça donne dans ce temps-là. Et, mais effectivement, moi, je trouvais que David Pastrnak n'a pas joué un très bon match. Malgré qu'il y a eu, David Pastrnak qui en échappé des jeux de gardien puis tire à côté du but, ça arrive pas souvent.
C'est rare.
Pastrnak, aussi, à un moment donné, il a carrément swingé dans le beurre. Brad Marchand n'a pas été très visible dans ce match-là. Jake DeBrusk qui a fait un but sublime mais en prolongation, mais qui n'avait pas non plus été saisissant. Non, je te rejoins que vraiment, les Bruins, je les trouve. En fait, même j'ai fait la remarque à Richard pendant le match. C'est pour un club qui s'en va en série, je les ai pas trouvés hyper convaincants, d'autant plus que la compétition va être féroce en série, mais c'est ça, leur gardien a fait les arrêts clés, la défense a fait du bon travail aussi. Le Canadien a quand même eu 19 tirs au but, a eu très peu de chances de marquer. Tu sais, une équipe organisée, qui a un gardien de but qui fait le travail, qui joue bien défensivement, puis qui a quand même des outils en attaque, qui même s'ils connaissent une mauvaise soirée, peuvent s'en sortir, ben c'est pas mal les caractéristiques d'une bonne équipe. C'était les bons gars.
Je sais pas si c'est inquiétant pour Boston, mais récemment, c'est un peu moins facile. Hein, lundi soir, à la maison, ils s'étaient fait planter 5-1 par Saint-Louis. Et là, 5 victoires, j'ai goût de dire 5 victoires seulement leurs 10 dernières. Donc, tu sais, c'est peut-être un petit passage à vide, mais là, les séries s'en viennent. Généralement, tu veux espérer aborder le dernier droit dans de meilleures dispositions. Alors, on verra s'ils pourront se replacer un petit peu. Là.
OK. Dans le match, on a eu le droit à une séquence en troisième période où Nick Suzuki écope d'un 4 minutes de pénalité pour bâton élevé sur Charlie McAvoy. Ça n'a pas été de 4 minutes au grand total parce qu'on a eu combien, mettons, 2 minutes 30 à peu près?
3 minutes.
Aux alentours de 3 minutes, donc en désavantage numérique. En fin de match, je croyais que les Bruins étaient pour capitaliser là-dessus, mais ça n'a pas été le cas. Encore une fois, on s'est bien défendu en désavantage numérique. Antoine, comment se fait-il qu'à un moment donné, dans le balado, on disait que le désavantage numérique, ça valait pas de la chenoute, puis là, présentement, le désavantage numérique du Canadien est parmi les meilleurs dans la Ligue nationale de hockey, avec un quoi, c'est Simon-Olivier, un taux d'efficacité, hein?
C'est 96% au cours des 8 derniers matchs, donc un seul but accordé en 26 occasions.
C'est pas banal, là. Comment ça se fait qu'on a changé ça comme ça, Antoine?
Bah, parce que tu prends moins de punitions. Tu sais, si tu fais une moyenne de chaque match, t'es entre, c'est un petit peu plus que 3 punitions par match. Si tu coupes drastiquement les minutes que tu passes au cachot dans un match, c'est officiel que tu vas augmenter ton ratio de succès. Parce que ce qu'un power play ou un avantage numérique, pardon, aime, c'est de se repérer facilement, de s'adapter. Puis généralement, c'est en avantage numérique, c'est toi qui dictes. Donc, tu vas arriver avec contre un désavantage numérique. Eux vont faire toujours la même affaire. Mais l'avantage numérique, après avoir une ou deux chances d'avoir vu comment le désavantage numérique était organisé, ben là, tu fais des petits ajustements et c'est là que tu vois les trous arriver. Donc, quand tu limites les opportunités de l'adversaire de jouer en avantage numérique, ben, tu augmentes drastiquement tes chances de succès parce que ils n'ont pas ce sentiment où c'est facile, où ils comprennent comment le désavantage numérique joue. Et à ce moment-là, ils tirent leur épingle du jeu s'ils ont plus de chances. Donc, pour moi, c'est clairement ça. On a fait quelques ajustements aussi. Puis, nos gardiens font les arrêts. Ça prend des gardiens qui font les arrêts. On a vu des chances aussi, même en avantage numérique, où il y avait quasiment des cages ouvertes. Puis finalement, ça a été des arrêts. Donc, pour moi, c'est un petit peu une combinaison de tout.
OK, donc moins de punitions. Antoine nous dit ça va mieux en désavantage numérique parce qu'on est moins fréquemment en désavantage numérique. Donc, on peut sauver un peu de gasoline puis être capable d'avoir de la bonne énergie. Richard, pourquoi, selon toi, le désavantage numérique fonctionne mieux?
Écoute, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Il y a certainement deux joueurs que j'ai remarqué, en particulier lors des 6 derniers matchs, le Canadien qui n'a pas accordé de but en désavantage. Ça coïncide à peu près avec ce que j'appellerais le réveil, le retour en forme, appelez ça comme vous voulez, de Joel Armia, qui joue absolument, écoutez, de manière exceptionnelle, qui joue comme le premier choix qu'il avait été jadis de premier tour par les Sabres de Buffalo. Il prend de la place, il est gros, il est imposant. Et son jeu en désavantage numérique, entre autres, jeudi soir contre Boston, pendant que Suzuki était au cachot, je pense a tué cette punition-là pratiquement à lui seul. Il est vraiment, là, comme on dit en anglais, en mode bête. Donc,
en mode bête, j'aime ça, c'est bon.
Oui, alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais certainement que son jeu à lui aide beaucoup. Puis l'autre, c'est Jake Evans qui joue très bien, qui gagne beaucoup de mises en jeu aussi à 4 contre 5. Évidemment, quand tu gagnes la mise en jeu, tu prends possession de la rondelle, puis après ça, ben, tu as plus de chances d'avoir un succès pendant cette période-là. Donc, pour moi, beaucoup, ce retour en force du 4 contre 5 est beaucoup attribuable à ces deux joueurs-là. Et aussi, on sent peut-être, en tout cas, on l'a vu à l'entraînement qu'on pratique ça, on sent, je pense que Martin Saint-Louis, en tout cas, quelqu'un a demandé aux joueurs d'être un peu plus agressifs parce qu'on sent qu'on coupe beaucoup plus les lignes de tir, les lignes de passe. On se met beaucoup plus devant le joueur qui a la rondelle et c'est je ne sais pas si une nouvelle approche en tant que telle, mais certainement, en tout cas, je sens que à 4 contre 5, le Canadien est peut-être un peu plus agressif et je pense que tu mets tout ça ensemble, ça donne un petit peu le succès qu'on a présentement.
Mais Simon-Olivier...
Richard, je suis content...
Vas-y, Antoine.
Richard, je suis content que tu parles de Jake Evans parce que Jake Evans, souvent, on n'en parle pas souvent. Puis pour moi, puis j'ai déjà joué avec d'excellents joueurs en désavantage numérique. Et quand je le regarde, pour moi, c'est le prototype type de ton joueur de quatrième trio au centre. Puis j'aime la façon dont il joue avec la rondelle. Quand il y a un petit peu plus de temps de glace, il arrive à faire des jeux offensifs. Mais pour moi, dans une équipe gagnante, Jake Evans, c'est ton joueur de quatrième trio. On en a plusieurs, d'ailleurs, avec le Canadien, des joueurs dans une équipe gagnante, ce sera des joueurs de quatrième trio. Puis lui en fait partie. Puis si tu veux continuer à bâtir là-dessus, ben il faudrait éventuellement le replacer dans, comme Martin Saint-Louis le dit, dans sa bonne chaise. Et ça, éventuellement, j'imagine, quand Dvorak reviendra, peut-être qu'il reprendrait ce rôle-là s'il ne se fait pas échanger d'ici là. Mais Jake Evans, moi aussi, j'adore la façon dont il joue. Offensivement, on le voit un petit peu plus. J'aime quand il garde la rondelle. J'aime quand il essaie de créer de l'offensive aussi. Mais défensivement, c'est un prototype type, un J.B. Goal, un Vernon Fiedler. Puis c'est le genre de joueur que tu vas avoir, là.
Donc, individuellement, il y a des gars qui font le boulot, mais collectivement, écoute, Simon-Olivier, j'allais te demander, la transversale, on la voit plus, là. On est capable de couper ses... Tu sais, Pastrnak n'a pas reçu exact. Cette fameuse transversale pour faire un lancer sur réception, là.
Exact, et les Blues vont essayer tout le match, parce que c'est de la manière que le Canadien se place son désavantage numérique, le fameux losange ou le diamant, c'est très répandu dans la Ligue, là. C'est pas le Canadien n'a pas réinventé le feu, mais il le maîtrisait tellement mal pendant la majorité de la saison, c'est-à-dire jusqu'à il y a deux semaines, soyons francs, que ça a donné... combien de surnoms proches du filet, que c'était comme un mini 2 contre 1, presque un 2 contre 0, parce que tu voyais le dernier défenseur proche du filet qui avait deux joueurs dans son dos, puis ça donnait un début d'une facilité complètement déconcertante. Je me rappelle le match contre les Blues de Saint-Louis le week-end du Super Bowl. C'était une horreur, là. C'était barre ouverte autour du filet, même contre les Stars la veille. Et clairement, je pense que ce système-là, puis j'en avais parlé avec Philippe Dano quand les Kings étaient venus à Montréal, parce que les Kings, c'était à ce moment-là la quintessence de la réussite défensive et en désavantage numérique. Puis Dano, il disait... C'est un système qui est difficile, qui n'est pas facile à implanter, mais pour nous étant les Kings, ça avait tout changé et il y avait beaucoup d'efficacité là-dedans. Puis avec le Canadien, faut pas oublier que le Canadien n'a pas le personnel qu'a les Kings. Donc, ce qui est difficile, un système difficile à mettre en place avec des joueurs qui sont peut-être pas, disons, qui appartiennent pas à l'élite de la Ligue nationale, pour utiliser des mots populaires cette année, effectivement, ça peut prendre plus de temps. Et là, faut pas oublier... Peut-être qu'ils peuvent retomber dans le marasme au prochain match ou la semaine prochaine, mais en ce moment, la communication est bonne. Parce que c'est un système qui demande beaucoup de communication, beaucoup de lectures de jeu très instinctives. Puis si ton coéquipier fait une lecture spécifique, bien, faut que toi aussi tu réagisses parce que l'autre équipe demande juste ça, finalement, qu'il y ait une ouverture. Et là, bien, présentement, ça marche. Et pour poursuivre sur ce que les gars disaient, sur justement le personnel qui semble en bonne posture, Raphaël Harvey-Pinard, on va appeler les choses comme elles sont, on ne connaît pas une bonne saison offensivement, puis même pas juste une question de points. Quand je trouve qu'à 5 contre 5, il n'y a pas l'étincelle de l'année passée. C'est comme si avec ses blessures, il n'avait jamais réussi à se mettre en marche. Mais en désavantage numérique, c'est un très bon joueur. Et quand Richard parlait justement de l'agressivité, mais s'il y en a un qui est agressif, c'est lui, puis il bloque des lancers, puis il lit bien le jeu, puis c'est le joueur qui présentement a les meilleures statistiques en désavantage numérique sur le plan individuel. Évidemment, il est sur la deuxième vague, fait qu'il affronte pas la qualité des joueurs qu'affrontent Jake Evans et Yoel Armia, mais l'unité d'avantage numérique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont là-dessus. Fait que, si ça peut donner un break à Nick Suzuki, justement, il faudrait trouver un autre joueur de centre pour jouer en désavantage, mais ça, c'est un autre dossier. Raphaël Harvey-Pinard fait du bon travail, puis il est revenu au jeu pendant justement cette séquence heureuse-là du Canadien. Fait que je pense qu'il y a sa part de mérite là-dedans.
C'est quand même drôle parce que là, on parle puis j'ai parlé de stratégie collective, de joueurs individuels, mais on a souvent dit que le meilleur joueur en désavantage numérique, c'est ton gardien de but. Ouais. C'est lui qui doit faire la job. Moi, je veux savoir, les gars, je vais tester votre foi. Je commence avec Richard. Richard, as-tu la foi? C'est ça la question. As-tu la foi? Bah, t'as la foi. Bah, ça va bien, écoute, je n'ai même pas posé la question.
Oh,
tu as la foi en partant, parfait. Alléluia!
En plein carême, en plus.
Hein. En plein carême, tout est dans tout. Ceci étant dit, c'est que après deux matchs, je ménage à deux. J'ai terminé le ménage à trois, c'est le ménage à deux maintenant. Est-ce que le Canadien a deux valeurs sûres devant le filet? Primo a gagné 3-0 contre Columbus. Montembeau, victoire de 2-1, défaite de 2-1 en prolongation face aux Bruins de Boston. Est-ce que tu as la foi en ce qu'on a devant le gardien, devant le filet pour le Canadien de Montréal? Les deux gardiens, ce sont des valeurs sûres selon toi, Richard?
Ben écoute, j'ai goût de te répondre en deux temps. Premièrement, moi-même, je pense que oui. Je pense que Samuel Montembeau clairement a démontré cette année qu'il est capable d'être le numéro un de cette équipe-là. Avec le peu qu'on a vu de Caden Primo, je pense qu'il est capable d'être un bon deuxième. Là, maintenant, c'est bien beau ce que nous, on en pense. Et c'est ce que la direction en pense. Puis, Jérémy, je te ramène rapidement sur vos ondes. Je trouvais ça très intéressant, d'ailleurs, mardi soir. J'ai capté ça un petit peu là par après. Kent Hughes était avec Martin et Danny pendant le match contre Columbus. Et Kent Hughes, et je le cite, quand on lui a posé la question par rapport avec, entre autres, Montembeau, il dit « Je crois que oui, à savoir s'il peut être le numéro un. Je crois que oui, mais ça reste à voir. À savoir s'il est capable de tenir ce rôle-là. Ça reste à voir. » Ben, tu sais, ça reste à voir pourquoi? Ça reste à voir parce que la direction, Kent Hughes, Jeff Gordon, a décidé au mois d'octobre de s'embarquer dans un ménage à trois parce qu'on n'était pas capable de prendre une décision puis on voulait avoir quelque chose contre Jake Allen. Et là, on a étiré ça et étiré ça. D'ailleurs, le pauvre Caden Primo, en octobre, a joué un match sur les neuf. Donc, comment voulez-vous avoir un échantillon qui a de l'allure pour l'année prochaine, en particulier dans le cas de Primo qui est rendu à 15 matchs? Là, c'est bien beau de dire... On pense que peut-être que, mais si on avait décidé en partant au mois d'octobre de régler ce problème-là, ben on n'en serait pas là. Sauf que là, si je comprends bien, la direction se pose encore des questions par rapport à ça, mais c'est une situation que la direction elle-même a créée. Ça serait le fun d'avoir plus de réponses. Moi, je pense que, à mon avis, je pense que oui, je pense que Montembeau va être le numéro un et capable de le faire. Je pense que Primo est capable d'être un numéro deux, mais en même temps, c'est pas une certitude parce que les deux ont joué un rôle très limité, en tout cas, beaucoup plus qu'ils auraient dû. Je pense que dans un monde idéal, on aurait dû avoir quoi, là? Peut-être là, quelque chose comme 40 matchs pour Montembeau au moment où on se parle, peut-être 22, 23 pour Primo. On n'est pas là parce que la direction avait décidé en octobre que c'était pas ça.
OK. Simon-Olivier, est-ce que tu as la foi?
J'ai la foi en Samuel Montembeau, mais moi aussi, je suis obligé d'avoir une réponse nuancée parce que Montembeau, malgré toutes les qualités qu'on lui reconnaît, et elles sont nombreuses et elles sont réelles, son maximum de matchs qu'il a joué en carrière, c'est 40 matchs l'an passé. Cette année, il est rendu à 32, devrait dépasser les 40 à moins de se blesser parce qu'il reste 16 matchs, donc on peut imaginer qu'il y en a au moins une dizaine là-dedans. Donc, on sait que c'est un gardien de qualité qui peut avoir un certain volume, mais ce qui peut passer, lui aussi, une étape suivante. Lui aussi, il n'est pas rendu encore. L'étape suivante, c'est savoir peut-être pas 70 départs, mais est-ce que ça peut être 50? Est-ce que ça peut être 55? Puis est-ce qu'il peut être bon pendant tous ces matchs-là? T'sais, cette saison, quand on parlait des matchs, des performances significatives, Montembeau a livré beaucoup de performances significatives. J'ai en tête les performances contre les Rangers au début de la nouvelle année, contre les Stars aussi. Hier, contre les Bruins, il a poursuivi un volume de matchs de tirs hallucinant. Il a été très bon, Montembeau. C'est le premier but de Heinen, c'est un but un peu bizarre, là, qui peut-être effectivement son déplacement répète là. Sur le deuxième but, il peut absolument rien faire. Puis c'est pas facile pour un gardien les matchs avec peu de tirs, mais il y a eu quand même la circulation d'en face tout le match, puis il était tout le temps concentré. Je pense que c'est un bon gardien de but à qui il reste encore de la place justement pour justement passer à la prochaine étape. Primo, ben écoutez bien, il a joué cette saison 15 matchs, en carrière, il en a joué 36. Fait que lui aussi, c'est pas un exceptionnel Primo. Ça reste un choix de septième ronde. C'est pas un gardien qui s'est développé super vite. C'est pas Jake Oettinger ou c'est pas, tu sais, là, je sais pas si c'est un exceptionnel, mais tu sais, Jacob Fowler qui connaît des moments incroyables dans la NCAA. Je sais pas si Primo, c'est de cette catégorie de gardien de but-là, puis ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais je suis pas prêt à y mettre l'étiquette de valeur sûre. Ce qui est certain, c'est que sa progression a été évidente cette saison, et le gardien qu'on a vu cette semaine contre Columbus, c'est pas le gardien qu'on a vu au camp d'entraînement, puis c'est pas le gardien qu'on a vu l'année passée, dont la confiance était complètement à plat, et qui, juste dans son langage non-verbal, n'inspirait pas la confiance de ses coéquipiers ou de quiconque regardait les matchs. Fait que je vais dire que je suis optimiste, mais est-ce que j'ai une valeur sûre? J'irai pas jusque-là.
OK, point d'interrogation encore, puis il faut voir la suite des choses. Parfait. Antoine, je veux savoir une chose. Quand ton gardien de but, puis là, je vais revenir à Primo, obtient une blanchissage 3-0 contre Columbus. Columbus a lancé 41 fois, mais surtout 32 lancés bloqués par le Canadien pour protéger Primo. Ça veut dire que l'équipe réagit quand Primo est dans le filet. Au moins, il y a quelque chose qui se passe là.
Ben, c'est sûr que quand tu mets ton gardien avec lequel tu as le moins confiance devant le filet, tu te resserres. Mentalement, c'est logique parce que tu dis « Ah, il y a plus de misère, va falloir l'aider un petit peu plus. » Du moins, ça, c'est le signe d'une équipe à maturité qui fonctionne de même ou une équipe qui est bien coachée. Maintenant, tu sais, Primo, c'est sûr que je trouve qu'il joue, il joue bien aussi. Moi non plus, je suis pas capable de dire pour le moment. Puis j'étais là, à pareille date l'année passée, je pouvais pas te le dire non plus sur mon tambour que, hey, c'était avec certitude que c'était un gardien numéro 2. Parce que ça prend du millage, comme dans n'importe quoi. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Puis ça s'acquiert aussi de l'expérience en leur donnant la chance. Puis là, c'est ce qu'on donne de faire. Là, faut pas oublier que faut mettre les choses en contexte. En début de saison, tu avais 3 gardiens parce que tu voulais pas les perdre pour rien non plus. Là. Puis je pense que l'organisation, c'était pas dans un souci de développement, mais c'était dans un souci de ramasser des choix au repêchage et de pas perdre ces joueurs pour rien. Parce que oui, on aurait pu régler la situation au mois de septembre, mais il reste qu'au mois de septembre, en ce moment-là, tu n'étais pas capable d'échanger Jake Allen pour un choix de 2. Un choix de 3 conditionnel à un choix de 2. Parce que c'est possible qu'il devienne un choix de 2 ce choix-là puis cet échange-là. Donc, je trouve que l'organisation a maximisé son retour. Maintenant, est-ce que ça a retardé la progression? Peut-être, peut-être pas. On n'a pas de boule de cristal, on le sait pas. Chose est sûre, c'est que Éric Raymond, il a fait un travail exemplaire avec Samuel Montembeau l'année dernière et il continue de le faire. Tout le temps qu'il a eu avec Primo, c'est du temps en banque, c'est du millage d'une certaine manière. Primo a pu être dans l'entourage d'une équipe de la Ligue nationale. Faut pas sous-estimer l'effet que ça a. Puis aussi, faut pas oublier que, si on parle de Samuel Montembeau, que lui s'est fait ramasser aux waivers par des équipes qui avaient une équipe qui avait abandonné au ballotage, je veux dire. Donc, il y a une progression qui est toujours, qui arrive toujours plus sur le tard pour un gardien. Et je reviens à ce que je disais. Pour recommencer, ça prend du millage. Et on va être capable de se dire, OK, Primo, si dans quand il va toucher aux 100 matchs, où est-ce qu'on va se situer? Est-ce que ça va être un gardien qui a l'étiquette d'un deuxième gardien? Est-ce que c'est un gars qui a un potentiel de se faire essayer pour un premier gardien? Peut-être. Mais ça, c'est des certitudes qu'on va l'avoir tranquillement. Là, tu es obligé d'y aller par tranche de 15-20 matchs, puis tu continues comme ça. Mais jusqu'à présent, ben moi, ça m'encourage de commencer la saison prochaine avec ce statut-là, parce que on a des belles choses, on voit des belles choses, mais tu peux pas dire je vais à la guerre complètement avec ce duo-là, parce que t'es sûr de tes choses. Mais le Canadien n'a pas besoin d'être sûr à 100% l'année prochaine. On vise pas la Coupe Stanley encore, donc c'est encore le temps de donner du millage, d'aller avec des essais, des erreurs, puis de donner la chance à ces deux joueurs-là de devenir des bons, dans le cas de Samuel Montembeau, un bon premier gardien, puis dans le cas de Primo, un bon deuxième. Ça serait des objectifs pour les deux gardiens réalistes.
Bon, OK. Là, je suis un torieux, et je vous dis pourquoi je suis un torieux. C'est que là, je vous parle de ça, avez-vous la foi en les gardiens de but? Parce que qu'est-ce qui s'en vient pourra nous donner quelques réponses, j'en suis convaincu. Le Canadien s'en va d'un périple de 12 jours. 5 matchs qui sera dans l'ouest du Canada. On ira également aux États-Unis avec des matchs contre Seattle et Colorado. Je donne les matchs là, pour que les gens le sachent. Calgary, Edmonton, Vancouver, Seattle, Colorado. Tout ce qui est le fun qu'on est en train de parler pour dire comment le Canadien est organisé, comment défensivement ça va mieux, comment les gardiens de but font un bon job, ça se peut qu'on prenne tout ça, qu'on scrappe tout ça puis que ça n'existe plus au retour de l'équipe. Donc, je pose la question à tour de rôle. Richard, dans quel état sera le Canadien au retour de ce voyage de cinq matchs sur 12 jours dans l'Ouest canadien aux États-Unis?
Tu veux dire physiquement ou mentalement?
Bon, okay, tu choisis, c'est toi le boss.
Écoute, revenir de ça, t'as quand même nommé les pas pires équipes. Là, tu nommes les premiers d'une division, d'une autre division. Les deux autres, Calgary, Seattle, sont dans la course encore pour une place en série, quoique Seattle, c'est un petit peu plus loin, mais ce sont des bonnes équipes. Donc, si le Canadien peut revenir de ça, Jérémy, avec on va mettre ça moitié-moitié, une fiche de 500 ou à peu près, 5 points sur 10, ça serait quand même très, très bon. Moi, je pense que, évidemment, c'est ça que Martin Saint-Louis va viser. Mais c'est pas tant, je te dirais, Jérémy, les points pour revenir de ça. Évidemment, les points comptent plus là, au moment où on se parle, mais c'est encore une fois le niveau de compétition. Et c'est ce qu'on, je pense que c'est ce que le Canadien veut voir, la direction qu'on veut voir. C'est que, en particulier contre Vancouver, contre Edmonton, tu vas te comporter comment? Est-ce que tu vas être capable de suivre ces équipes-là, de les talonner, de les pousser? dans leur dernier retranchement ou ça va être 4-0 après deux périodes? C'est ça que tu veux savoir. Puis ça va aussi dire beaucoup, je dirais, sur la comment je te dirais, sur la force de caractère. Parce que là, t'as pas d'enjeu tant que tel. T'as des vétérans qui sont là, qui ont peut-être rien à gagner. Qui veut se battre maintenant? T'sais, qui veut y aller, là? Puis qui veut aller se faire mal, puis aller dans le coin, puis aller devant le filet, puis aller payer le prix, comme on dit, là? Qui veut faire ça? Je pense que c'est un bon moment aussi pour prendre des notes. Parce que dans ces moments-là, où peut-être l'enjeu est peut-être pas important, ben tu veux savoir sur qui tu peux compter. Et ça, c'est important pour l'année prochaine.
Mais Simon, lui...
C'est clair.
Oui, vas-y, Antoine.
C'est rare qu'il le fait, mais il y a un bon point, Richard.
Gars qui est sympathique, merci.
Non, mais parce que, le danger avec une jeune équipe et des jeunes joueurs dans une situation comme le Canadien est, c'est de penser que tu vas avoir ta place l'année prochaine garantie parce que tu es dans l'équipe. C'est le plus gros danger des joueurs en ce moment. J'en ai vu des joueurs, des choix de première ronde arriver à ce temps-ci de l'année, puis jouer pas engagés. Ils montraient pas leur meilleur jour. L'année d'après, ils étaient pas sur l'équipe. Ils étaient dans la Ligue américaine. Et pour certains, n'ont jamais eu d'autre chance de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, pour te dire que c'est vrai. Et la meilleure chose qu'on m'a toujours dit, c'est que n'oublie jamais qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde partout. Que ça soit pour ton équipe ou ailleurs. Et le danger, comme je le dis, c'est que ton équipe, elle t'évalue. Puis elle finalement, elle dit, ah, je suis pas sûr de ce joueur-là. Et les équipes de la Ligue nationale regardent tout. Les équipes. Et donc, ils évaluent et ils sont toujours à la recherche de ces pépites que d'autres organisations les aiment moins, mais ils sont sous-utilisés. Et c'est comme ça qu'il y a des gars qui se font rappeler, qui ont donné des contrats, puis finalement, ils se faufilent et ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale parce que des fois, tu prends pour acquis ta situation et le danger est là avec des hauts choix repêchage ou même, peu importe, n'importe quel joueur qui ne profite pas de son opportunité de dernier 20 matchs pour jouer du gros hockey et finir la saison en force.
OK, là, ce que je comprends, si tu nous parles, c'est une période d'évaluation en même temps. Moi, ce que je voulais amener comme conversation, c'est que je pense que cette séquence-là de 5 matchs pourrait être une période de déconstruction. Et là, j'explique, c'est que tu es en train de construire de bonnes choses et ça se peut que tu reviennes de là et tu fasses « finalement, marche pas tant que ça, là ». Ça se peut que tu te fasses traverser contre Calgary, ça se peut que tu te fasses traverser contre Edmonton. Il y a de fortes chances contre Vancouver aussi. Ça veut dire que tu es obligé de jouer du très gros hockey pour être capable de compétitionner, Simon Levy.
Quand tu parles de déconstruction, je trouve ça intéressant parce que moi, il y a une pièce du casse-tête ou de la tour, là, mais figurez-vous un Jenga, mettons, là, Joshua Roy. Parce que Joshua Roy, on se doute que l'organisation va le renvoyer à Laval tôt ou tard, mais on ne sait pas quand. C'est mon collègue Marc-Antoine Godin de Radio-Canada qui se demandait hier, est-ce qu'ils vont le renvoyer directement après le match contre les Bruins, plutôt que de l'amener dans le long voyage? C'est pas arrivé. Fait que je sais pas, mais là, après ça, est-ce qu'il est déjà à Laval puis on le sait pas, ou est-ce qu'il va rester à Montréal avec le Canadien pour les 5 matchs? On n'en sait rien. Mais si le Canadien renvoie Joshua Roy à Laval, ce qui serait pas invraisemblable, parce qu'en plus, Laval vient de perdre Xavier Simoneau pour le reste de la saison et Jared Davidson pour, je pense, 6 semaines, ce qui doit être le reste de la saison. Fait que, ils ont besoin de bras et, Joshua Roy pour le fameux push en série du Rocket serait évidemment un atout. Si Roy part du Canadien, et sans dire long sur le Canadien, c'est que c'est pratiquement tout l'équilibre en attaque qui devient précaire ou qui tombe, parce que le premier trio, évidemment, n'est pas affecté, mais le trio de Newhook, Armia et Roy a été le meilleur hier, a été possiblement le meilleur dans les derniers matchs du Canadien. Alors là, tout à coup, il faut que tu rajoutes à la place de Roy, mais là, ça devient Ilonen, ou ça devient Harvey Pinard, justement, comme je disais, qui n'a pas une très bonne saison, ou ça devient Anderson, ou ça devient Gallagher, ça devient des joueurs qui connaissent pas des bonnes saisons. Alors tout à coup, le Canadien redevient l'équipe d'un trio. Ça compte pour beaucoup contre des équipes qui sont capables de jouer en défense, contre des équipes que ça ne stresse pas de contrer un trio qui est celui du Canadien. Tu as nommé tantôt les gros clubs de l'Ouest. Donc, ça nous ramène à la précarité de tout ce qui est positif dans cette équipe-là. Chaque fois qu'on se dit, comme tantôt, que le désavantage numérique est organisé, que c'est organisé en défense, que les gardiens de but vont bien, que l'attaque est diversifiée, ce qui n'était pas le cas hier, ben ça tient sur pas grand-chose, finalement. Et moi aussi, je pense que ce voyage-là peut... comme le disait Richard, s'il joue comme contre Boston et si effectivement qu'on sort des matchs, des gros matchs sans égard à la victoire, ben oui, s'ils peuvent ressortir grandis de ce voyage-là, mais ils peuvent revenir maganés aussi si la chaîne redébarque, parce qu'on sait, quand elle débarque, elle peut débarquer vite et longtemps.
Alors, mais écoute, Simon Levy, moi, là, quand j'entends le point de presse de Martin Saint-Louis après le match qui parle justement où on a joué un match significatif, je me suis dit, si on s'en va dans ce voyage-là et qu'on se fait traverser et on reprend nos mauvaises habitudes, écoute, t'es obligé, c'est deux pas de recul, là, t'es obligé de recommencer puis d'essayer de retrouver un momentum pour ta fin de saison. Il y a, pour moi, il y a des matchs significatifs dans ce qui s'en vient présentement parce que c'est sur la route, t'as pas le dernier changement, des clubs qui sont forts puis t'es pas habitué de gagner habituellement dans l'ouest du pays.
Non, pas vraiment.
Tu sais, fait que donc, beaucoup de choses à gagner pour le Canadien dans ce voyage de 12 jours et de 5 matchs sur la route. On va s'arrêter quelques instants pour retour, on va se parler de nos amis des Red Wings de Détroit. Ah ouh, ça va pas bien. 7e défaite de suite. Ils se sont inclinés face aux Coyotes de l'Arizona. Toujours dans une lutte avec les Islanders qui, eux aussi, ont perdu contre les Sabres de Buffalo. 72 points. Mais ça va pas bien pour les Red Wings. On en parle au retour. Restez. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 45 avec Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé, Antoine Roussel. Les gars, ça va pas bien du côté des Red Wings de Détroit. OK, ma première question, je vais y aller pour Antoine, OK? Antoine qui joue dans la Ligue nationale de hockey. Antoine, quand ça se coltaille un petit brin d'une pratique, c'est-tu bon signe, ça? C'est-tu parce que ça va bien dans l'équipe?
Personnellement, je trouve que c'est pas un bon signe. Je trouve que ça montre vraiment qu'il y a de la tension dans l'air, puis généralement, il peut y avoir des situations où tu sais, c'est anecdotique, puis c'est juste contextuel un petit peu, puis ça peut arriver. Pour moi, c'est jamais vraiment bon signe, surtout quand tu colles 7 défaites consécutives. Quand ça arrive, tu réfléchis un peu, puis que justement, tu sais, l'équipe a perdu un ou deux matchs, je vois pas les planètes s'aligner. Quand je vois 7 défaites consécutives, je vois ça, je me dis, oh boy, ça, c'est pas bon signe, puis généralement, ça s'en va pas plus dans la bonne direction par la suite. Donc, quand j'ai vu ça, ça a été ma première réaction. Puis, c'est sûr que Ben Chiarot n'a pas nécessairement... Puis, Ben Chiarot, c'est quelqu'un qui est quand même assez robuste, qui est quand même capable d'alimenter puis de se battre, qui est quand même solide. Je trouve qu'il y a eu du rififi, mais ça, il en a pas rajouté plus. Tu sais, ça a plus été le cas d'un jeune qui aime pas se faire bousculer probablement un petit peu aussi. Donc, pour ma part, c'est pas bon signe pour la suite des choses des Red Wings. Je peux me tromper, bien entendu, mais j'ai pas nécessairement aimé ça, surtout dans la situation dans laquelle ils sont. Tu veux pas que ton équipe se désintègre. Tu veux que ton équipe, justement, quand t'as des moments difficiles, se rassemble ensemble parce que c'est vraiment là que tu juges une équipe. Quand t'as 10 défaites consécutives, c'est là que tu peux vraiment juger puis tu vraiment évaluer ton équipe.
Donc, Détroit à 72 points, les Islanders 72 points. Un match en main pour les Islanders de New York. Je le mentionnais, défaite de 4-0 face aux Sabres de Buffalo, tandis que Détroit s'est incliné 4-1 face à l'Arizona. Est-ce qu'il y a un des deux violents de la presse qui pense que c'était correct, une petite bagarre en pratique? Simon-Olivier, l'apôtre de la violence?
En fait, c'est parce que j'ai de la misère à m'inscrire en faux contre Antoine, qui a été dans un vestiaire. Fait que je commencerai pas à faire comme si je connaissais plus que lui. Je sais pas, ça m'a pas particulièrement choqué. En fait, il y a quelque chose qui m'a amusé sur les réseaux sociaux. C'est un compte de fans de Canadiens qui riaient un peu des Red Wings puis qui mettaient une image de Canadiens où tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais c'est sûr que c'est pas dur d'être heureux et être content quand t'as pas besoin de gagner. Fait que je peux comprendre qu'il y a la frustration qui s'installe quand justement t'es dans le portrait des séries puis t'es plus capable d'acheter une victoire. C'est 7 défaites en temps réglementaire, là. C'est 0 points en 7 matchs, là. C'est tough, là. Fait que je peux comprendre. Je pense que c'est pas souhaitable, mais comme le disait Antoine, faut que ça meure vite.
J'ai rarement vu une bagarre à l'entraînement qui était quelque chose de positif. Honnêtement, c'est arrivé à Montréal. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais c'est arrivé à quelques reprises. Mike Ribeiro, Saku Koivu, Piqué Souben, Thomas Plekanec. Ouais, on s'était envoyé quelques taloches, puis à chaque fois, ben après, dans le vestiaire, ça arrive à toutes les familles, mais ça arrive pas aux familles unies. Je pense que généralement, quand ça t'arrive, c'est parce que ta saison va finir dans pas long, puis à chaque fois, c'est ça qui arrivait. Donc, je peux pas voir beaucoup de positif là-dedans. L'autre chose, tu sais, si on parle de pression, il doit y avoir beaucoup de pression présentement du côté des Wings. Pas seulement de la part des joueurs, mais la direction doit se demander, là, coudon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 7 ans que les Wings ne sont pas en série. Souvenez-vous, il y était un temps où cette équipe-là c'est automatiquement se battait pour une Coupe Stanley, là, à un moment donné. Puis là, ben là, je sais que ça fait longtemps de ça, mais là, on est passé des grosses années à vraiment de très mauvaises années. Et là, je dis 7 ans sans série. Si on recule même encore, les 3 années d'avant, quand ils ont fait les séries, ils sortaient au premier tour. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps là, du côté des Wings de Détroit qu'on n'a pas eu du succès. Et puis, je pense que ça aussi, un petit peu, je pense que ça aussi, ça commence à peser sur les joueurs parce que probablement que, à un moment donné, ils l'entendent. Ouais, même ceux qui n'étaient pas là, là, ils se le font dire. Ouais, mais là, ça fait 7 ans, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? C'est une équipe quand même avec un passé riche. C'est sûr que tout ça ajoute, je te dirais, à la pression présentement. Alors, ce qu'on a vu à l'entraînement, ben c'est un petit peu symptomatique de tout ça.
Moi, en fait, cet événement-là, je pense qu'on peut on peut l'isoler pour l'instant. On peut mettre une petite pin dessus et s'en rappeler dans un mois quand la saison va être finie. Parce que si l'équipe est en série puis tout le monde trippe, ben, tu sais, ça va être une petite virgule dans l'histoire de leur saison. Si l'équipe rate les séries, ben moi, je vais directement regarder la direction. Parce que, tu sais, Steve Yzerman, pour qui on a tous beaucoup de respect, c'est pas clair où il s'en va avec cette équipe-là. Parce que tu regardes la manière qu'elle est bâtie, l'attaque, ça s'en vient très intéressant. Il y a même acquis Patrick Kane cette année. Présentement, les gardiens de but, c'est une catastrophe, là. En plus, avec Ville Husso qui est blessé, c'est James Reimer et Alex Lyon qui se partagent le travail. Et c'est il y a aucun des deux qui a eu un taux d'arrêt, qui a arrêté 90% des tirs dans un match au mois de mars. Puis on regarde les statistiques, défensivement, c'est pas si mal, mais les gardiens n'arrêtent aucune rondelle. Fait que là, je comprends que c'est pas que les goalers qui se battaient, Ben Chiarot ou Lucas Raymond, mais il y a un problème là. Défensivement, même si je disais c'est pas si mal de ce temps-là, ben regarde l'identité des défenseurs de cette équipe-là. Gustis Bird, Justin Hull, Jeff Petrie, Ben Chiarot. Il y a pas, tu sais, même Maurice Seider, qui est encore très jeune, qui est encore très imparfait son jeu. Tu sais, ils ont un peu été sur une ballonne pendant une grosse partie de la saison, mais forcément, une équipe qui a pas de bon gardien de but puis qui a pas une très bonne défense, ben sur le long terme, ça risque de craquer un petit peu. Et c'est ça qui arrive avec les Red Wings. Fait que peut-être qu'ils vont réussir à coller des victoires, puis on n'en parlera plus du tout, comme je disais, dans un mois, puis ils vont être dans nos prédictions des séries, puis on va dire ah, ils vont battre les Rangers, tout ça, ce qui arrivera pas. Mais c'est structurellement, s'il y a des problèmes qui sont plus graves que juste deux joueurs qui se picossent à l'entraînement.
Ce que je trouve étrange, c'est que en fait, on sait pas c'est quoi l'identité des Red Wings de Détroit. Il y a eu un début de saison difficile. On avait prévu que ce soit un club qui soit très compétitif. Ça a été très difficile. À un moment donné, le club, là, Patrick Kane est arrivé, le club s'est mis à gagner. Il y a eu un momentum. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de reperdre ce momentum-là. Fait que tu te demandes, c'est quoi les Red Wings? C'est-tu un bon club ou le club qui va nulle part par moment? Ou c'est le club qui gagne? On n'arrive pas à identifier ce club-là en tant que tel. Fait que ça devient difficile en tant que tel pour Steve Yzerman de dire, mon équipe, j'ai confiance, on est capable de gagner. Ça a l'air d'un club de séquence, là. Ça pas l'air d'être évident à planifier, là.
Ben, c'est un autre appel que les gens qui veulent une longue reconstruction, ben, que des fois, ça fonctionne pas tout le temps. Des fois, c'est des petits allers-retours.
Arrête de dire ça, là. vas-y, Richard.
Ben, non, mais j'allais dire, justement, je pense qu'à un moment donné, les Wings, et là, je venais de parler de la séquence des 7 saisons sans faire les séries. À un moment donné, on perd un peu patience, et là, on ajoute des joueurs. Et là, c'est ce qu'on a fait, là, les Petrie, les Kane, je vais mettre David Perron là-dedans qui est arrivé à un moment donné, Chariot qui a été ajouté. Tu sais, on se met à rajouter des vétérans en pensant que quelqu'un quelque part là-dedans va faire en sorte que le gâteau va lever. Debrincat qu'on est allé chercher. Bon, on a rajouté beaucoup de joueurs comme ça. Et je pense que les résultats sont loin d'être ceux que l'on croyait. Je pense qu'on pensait probablement en faisant tout, en posant ces gestes-là du côté de la direction des Wings, on pensait certainement amener, là, ou peut-être brûler les étapes, monter un petit peu plus rapidement que prévu les échelons. Et là, les joueurs, eux aussi, se font dire ça, là. Tu sais, quand t'as des gars qui se font attirer dans une équipe, tu te fais dire, ouais, en passant, nous autres, là, on y va, là. Là, c'est cette année, on y va. Si tu viens avec nous, tu vas voir ça, là. Écoute, là, on y va. Cette année, let's go. Puis là, ben, t'arrives et là, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, ben ça peut donner ce que ça donne présentement. Tu sais, je pense à Kane, entre autres, là, qui tu sais, lui, était pas mal sûr d'aller là-bas puis de probablement de sortir de là avec auréolé peut-être d'un autre titre, ou en tout cas quelque chose de similaire. Lui, il doit pas avoir beaucoup de plaisir présentement, là, Patrick Kane.
Auréolé, mon Dieu, Richard, c'est un beau terme, ça. D'après moi, oui. T'es le genre de gars qui écrit des livres. T'as-tu écrit un livre, toi, récemment?
J'en ai quelques-uns de proposer. Oui.
Ah oui, le dernier en liste, c'est quoi? Pour ma lecture du week-end.
Une excellente
écrire remarque. Pour les deux.
Hey, Antoine, juste un petit mot avant qu'on fasse une pause, là. Jake Allen, c'était son premier départ hier avec les Devils de New Jersey. Les Devils ont gagné 6-2 face aux Stars de Dallas. Sauf que Jake Allen arrive dans le match Premier lancé, je pense 15 secondes seulement, pouf, un but. Deuxième lancé, ça n'a pas été évident. On a encore, c'est quoi, c'était 2-0, je pense, après la première période. Et par la suite, en deuxième, troisième, ça a bien été pour Jake Allen. Mais quand tu arrives dans ton club, nouveau club, tu as d'affaires à performer quand tu commences, parce que sinon, la vision qu'on va avoir de toi ne sera pas nécessairement une vision très positive.
C'est officiel, puis il est pas chanceux, mais ça a bien fait qu'il ait gagné. Puis il a profité de ça. Est-ce qu'on va lui redonner rapidement un autre départ aussi? Faut pas oublier que dans une situation dans laquelle ils étaient, il y a quand même du contexte à mettre autour de cette situation-là. Dans son cas, c'était pas nécessairement évident. Là, tu joues avec une nouvelle équipe aussi. Donc, il va falloir que tout ça s'emboîte rapidement. Mais effectivement, tu n'as pas le choix de reprendre la balle au bon puis de t'intégrer rapidement, parce que sans ça, il va avoir une corrélation qui va faire en sorte qu'on va prendre une décision rapidement sur toi. Donc, t'as pas la chance de prendre ton temps. Lui, il a quand même encore une année de contrat. Donc, il y a un petit peu cette chance-là, mais au final, il faut pas que ça prenne une éternité. Juste pour finir, puis un dernier point sur Détroit. Faut pas oublier que dans leur ligne de centre, je trouve pas qu'ils ont une ligne de centre qui est complètement dévastatrice non plus. À part Dylan Larkin, puis ça coïncide sa blessure au fait qu'il manque 2 semaines, puis là, l'équipe a commencé à moins bien aller aussi. Donc, le fait qu'il soit pas là, ben, ceci explique aussi un peu cela. C'est pas juste les gardiens, parce que si lui tombe au combat, ben, tu vois des GT Comfort, des Villino, puis des Cop, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des marchands de création, c'est des bons joueurs de complémentarité. Mais Cop, 28 points cette année, Verlino 26, puis Comfort, c'est 37. C'est pas énorme non plus, là, tu sais, pour des joueurs qui doivent remplacer. Donc, ils ont pas cette profondeur dans le joueur de centre qui fait en sorte qu'ils peuvent vraiment penser à avoir des blessés. Tu sais, ça serait un peu la même situation si Nick Suzuki se blessait, là.
Ouais, ça peut être compliqué. En tout cas, pour le Canadien, ça serait très, très compliqué. On touche du bois. On espère que ça arrive pas, parce que sinon, qu'on va avoir des balados.
Effectivement.
Animés. OK. Hey, on va s'arrêter quelques instants. Puis au retour, on va se parler des Trashers. Non, on va se parler des Flames. Non, on va se parler, en tout cas, d'un club à Atlanta, possiblement, pour une troisième fois. Et on va se parler de la Ligue professionnelle de hockey féminin au Centre Bell le 20 avril prochain. Est-ce que les joueuses obtiennent leur juste part? Tout ça et plus encore au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 45, avec Simon, Olivier Larange, Richard Labbé et Antoine Roussel. Les gars, je veux commencer avec la Ligue professionnelle de hockey féminin qui sera au Centre Bell. C'est annoncé en grande pompe le 20 avril prochain. Un match entre Montréal et Toronto. Là, sous peu, il y aura un match à Pittsburgh entre Montréal et Toronto, un genre de showcase. On ramasse de la grosse argent présentement, la Ligue. Les salaires des joueurs, c'est quoi? C'est entre 30 000 et 80 000. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste 2-3 joueurs qui ont 80 000 $ américains quand même. Mais là, la Ligue, c'est populaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre présentement dans les coffres de la Ligue. Est-ce que, je commence avec Simon-Olivier, est-ce que les filles ont leur juste part de tout ça, selon toi?
La vraie réponse, c'est que je ne sais pas, parce que je connais pas les chiffres exacts des revenus de la Ligue et justement par rapport au salaire des joueuses. C'est un dossier très complexe, le hockey féminin. En fait, la Ligue de hockey féminin, qu'on peut pas comparer à armes égales avec la Ligue nationale de hockey masculin, forcément. Parce que les revenus, c'est très difficile de les générer. C'est-à-dire que présentement, la structure de la nouvelle ligue, c'est que c'est, dans le fond, tout passe par la ligue. C'est la ligue qui paye les joueurs. C'est la ligue qui donne des budgets aux équipes. Mais tout le monde, c'est tout. À la fin de la journée, pour utiliser une mauvaise expression, c'est la ligue qui ramasse le bill. Donc, les revenus, on peut pas juste voir comme là, une équipe a un succès, fait que là, il y a de l'argent qui rentre. Juste vous dire que l'avant-dernier match que l'équipe de New York a joué à son aréna locale, parce qu'ils jouent à deux endroits, au Total Mortgage Arena de Bridgeport, il y avait 728 personnes sur une capacité de 10 000. Là, c'est le fun à Montréal, il y a tout un buzz. Là,
on est loin de Toronto.
On remplit la place Belle. Puis Toronto, il y a eu le match au Scotiabank, mais leur aréna locale à l'équipe de Toronto, c'est 2500 places. C'est le plus petit aréna de la Ligue. Là, probablement qu'ils vont changer l'an prochain. À Ottawa, c'est un aréna de 8 000. Je pense que ça se passe assez bien là-bas. Minnesota aussi, on joue dans l'aréna du Wild, mais on attire à peu près 5 000 personnes. Mais il faut le ramener à l'échelle du hockey féminin. 5 000 personnes, si, il y a 10 ans, il n'y a aucune joueuse qui aurait cru qu'il y aurait 5 000, 7, 8, 10 000 personnes à un match. Donc, présentement, la Ligue évalue est-ce que ce qui se passe, c'est une balloune ou c'est vraiment il y a une structure pérenne. Donc, oui, il y a un succès, mais ils ne savent pas ce succès-là va être là l'an prochain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ensuite, même si on remplit le Centre Bell une fois, ben les billets sont pas au prix des billets du Canadien. Moi, je suis allé voir justement le hockey féminin avec mon garçon ou avec d'autres familles récemment. Ça nous a coûté 25 $ pour être dans le coin du bol inférieur à la Place Belle de Laval. Ça nous a coûté 25 $ par billet, 25 $ canadiens. Alors, si la joueuse est payée 80 000 US, c'est grosso modo 100 000, 110 000 canadiens, ou même 35 000, ça fait 50, 55 000. Je veux dire, si le revenu est en canadien, mais la dépense est en américain, ce qui est le cas pour 3 des 6 clubs, c'est différent. Ensuite, il y a le salaire des joueurs, mais après, il y a toutes les dépenses qui viennent avec l'administration d'une équipe de hockey. Et là, par exemple, pendant l'équipe du Minnesota, ben, elle, c'est la plus éloignée des autres. Donc, il n'y a pas d'autobus. On fait tous les matchs en avion. Donc, il y a beaucoup de données qui font en sorte que malgré le succès actuel, ben, moi, je serais pas prête à dire qu'il y a quelqu'un qui fait une pièce sur le dos des joueurs présentement. Puis, je veux pas non plus dire que les joueurs sont évidemment pas surpayés. Je pense qu'il était temps que les joueuses professionnelles aient un juste traitement, mais c'est comme faut voir ça comme étant une très grande réussite par rapport à où elles sont passées. Et s'il y a une progression, elle va être lente. Et éventuellement, je leur souhaite qu'il y ait des millionnaires, qu'il y ait des très hauts revenus, puis que toutes les joueuses se gagnent plus de 100 000 $, mettons, mais sont pas rendues là. Puis je pense que c'est juste sain que la Ligue prenne son temps. Et comme je disais, c'est déjà tellement de victoires que c'est important de se rappeler de ça aussi.
Donc, ce que je comprends, c'est que quand on fait exemple, je vais appeler ça un showcase entre Montréal, ouais, Toronto et Pittsburgh. C'est une activité de financement en même temps pour la Ligue qui doit assumer les frais totalité de ses franchises. Là.
Exact. Puis en plus, un showcase comme ça à Pittsburgh, moi, je suis curieux de savoir est-ce que l'aréna va être plein alors que, tu sais, on a fait un drôle de choix de mettre deux équipes canadiennes. La Ligue, présentement, les équipes canadiennes ont beaucoup plus des joueuses canadiennes, des équipes américaines et des joueuses américaines. J'aurais pensé qu'on mettrait des têtes d'affiche comme par exemple Hillary Knight qui joue à Boston ou Caden Skoll. Skoll Caulfield qui joue à New York. J'aurais pensé à ça. Fait que je sais pas à quel point les partisans de Pittsburgh rêvent de voir Marie-Philippe Poulin. Peut-être que c'est le cas, puis je vais être content pour elle. Mais comme tu disais, ce match-là, ça pourrait être une dépense. Même si à long terme, il peut avoir un bénéfice, un retour, mais pour l'instant, c'est ça. Disons que je suis pas prêt à crier à l'exploitation. Okay. Pas en tout,
Richard, est-ce qu'on peut remplir ça, le Centre Bell, pour la Ligue professionnelle de hockey féminin, selon toi?
Ben, je pense que présentement, comme Simon Olivier le disait, il y a vraiment, en bon français, un buzz présentement. C'est certainement impossible. Je pense que oui. La question, c'est est-ce qu'on pourra le faire dans 2 ans et dans 5 ans? C'est ça, évidemment. Puis je comprends là, l'aspect de la prudence dans ce dossier-là de la part des dirigeants à cause de ça. C'est que on peut pas deviner est-ce que cet engouement-là va rester? Est-ce que c'est seulement la passager? C'est très, très dur à déterminer, ça. Et évidemment, on souhaite tous que ce ne soit pas. On souhaite tous que ce soit là pour rester. Mais on peut pas le savoir. Alors moi, je pense que oui, il y a des bonnes chances que le match au Centre Bell soit... je sais pas s'il va être à guichet fermé, mais en tout cas, certainement, je pense qu'il va y avoir énormément de gens, je pense, qui vont se déplacer parce que présentement, cette ligue-là a un air d'aller. Mais on verra.
OK. Ce que je comprends, c'est que ça va marcher pour le happening. C'est ça que tu nous dis. Le happening va faire en sorte que ça puisse se remplir. Là.
Je pense que oui. Maintenant, il faut avoir des stratégies pour que ça dure. Et okay. Ça, c'est une autre paire de manches.
OK. Hey, je veux savoir, Richard. Puis moi, je vais te dire, j'ai regardé 6 matchs de l'équipe montréalaise dans cette ligue-là. À peu près 6 matchs à la télévision. Richard, combien t'en as regardé de matchs? Est-ce que tu as pris du temps pour regarder ça un petit peu?
J'ai vu des faits saillants.
OK, fait que tu t'es pas installé pour regarder au complet. Parfait. Simon-Olivier, t'es allé à Laval. Mais à part ça, est-ce que tu écoutes des matchs une fois de temps en temps?
Non, je suis pas un assidu.
OK. Antoine, t'as-tu déjà écouté les matchs de la Ligue professionnelle de hockey féminin?
Sporadiquement, avec ma fille, mais pas de manière régulière. J'avais justement l'intention, puis malheureusement, le Saguenay étant à une bonne distance, j'avais l'intention d'y aller éventuellement, justement, voir un match avec ma fille. Parce que depuis le début, c'est ça, je vous dis, je trouve que c'est tellement une bonne finalité pour le sport féminin. Puis on le sait à quel point c'est bénéfique le sport. Et puis qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui arrêtent éventuellement, mais de voir justement la finalité que tu es capable de jouer à professionnel. J'ai l'impression et j'en suis convaincu que ça va attirer de plus en plus de jeune fille à continuer. Donc, c'est merveilleux ainsi. Mais comme je regarde les essayons, c'est beaucoup de hockey pour nous autres aussi, des fois, à regarder, là, que ça soit de, junior, un peu de Ligue américaine. Donc, il y a un maximum
non,
de
mais,
temps.
Non, mais je disais pas ça pour vous prendre à défaut, les boys. Mais
est capable d'emmagasiner.
Mais c'est ça, je veux dire, c'est, je dis pas ça pour vous prendre à défaut. Je dis que le plus grand défi de cette ligue-là, ça sera qu'on regarde des matchs. Qu'on ait le goût de s'asseoir pour regarder le match au complet, pour savoir qu'est-ce qui se passe, on connaît l'enjeu, on sait qui est quoi, puis qu'est-ce qui s'est passé dans... Ça, c'est un défi qui se fait pas dans le temps de... La saison a commencé au mois de janvier, là, tu sais, elle a commencé à mi-saison, là. Ils ont beaucoup de job à faire. Il va pas avoir du succès, mais il y a une grosse job à faire. Tu voulais ajouter quelque chose, Simon Olivier?
Exact, mais en fait, c'est en lien aussi avec ce qu'Antoine disait, là, j'ai l'impression que je vois d'ici les torrents de critiques qu'on pourrait subir.
Non, mais je voulais juste dire qu'ils ont un gros travail à faire.
Je comprends ton point, mais ce que je veux dire, c'est que je dire comme Antoine aussi que disons qu'on manque pas de hockey dans nos vies. Je parle au Richard, Antoine et moi. Ben oui. Cela étant, la presse, on couvre tous les matchs, on couvre plusieurs entraînements par semaine, puis c'est pas que nous. Là, le RDS, les suit de près, Radio-Canada les suit de près. Il y a d'autres médias plus, un peu plus indie qui suivent aussi, qui suivent pas nécessairement le Canadien. Et c'est très bien parce que justement, le sport féminin, un des combats, c'est de créer justement, pas nécessairement de créer l'intérêt, mais de créer la couverture. Mm-hmm. Puis souvent, c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire que si les grands médias donnent pas d'attention, ben les partisans ont accès au match. Donc, si après ça, si nous, on leur en donne, ben peut-être qu'après ça, la Ligue peut justement continuer de croître. Et tu sais, là, les matchs sont télévisés à RDS, à Radio-Canada et surtout .TV. Donc, mais j'insiste, la roue, elle commence à tourner. Et là, c'est bien que le buzz soit là parce qu'il faut donner justement faut qu'il y ait le gros kickstart. Mais le défi est complet pour la suite et la pérennité. Fait qu'en tout cas, moi, je suis optimiste parce que c'est, puis même, je pense que Daniel Sauvageau l'a dit dans une entrevue que ma collègue Catherine Harvey-Pinard a publié ce matin, que c'est au-delà de leurs espérances. Mais, je me répète. Est-ce que ça va durer? On leur souhaite.
Exact. Là, il y a l'ouverture d'esprit. Maintenant, c'est à eux à faire le boulot. Les gars, on va terminer sur le sujet des Trashers. On a des Flames. Ah, je l'ai fait tantôt, mais je vais la faire, la trouver bonne.
Ah, ça reste bon. Quand c'est bon,
ben
là,
oui,
ça
ben oui. Atlanta qui pourrait revenir. Du moins, il y a de l'intérêt pour revenir une troisième fois dans la Ligue nationale de hockey. C'est drôle. Hier, je discutais avec Louis-Jean sur la galerie de presse qui travaille avec nous au 98.5 FM. Puis il me disait, depuis l'arrivée de TNT comme diffuseur des matchs à Ligue nationale, TNT qui est basé à Atlanta, on fait comme A, 1 plus 1 égale 2. Atlanta est la ville magique pour avoir un club de la Ligue nationale. Pensez-vous que ça va se réaliser? C'est Hanson Carter qui est là, un ancien de la Ligue, qui est là comme porte-parole un peu du groupe. C'est pas tant lui qui va tout financer, mais il est là comme porte-parole. Tour de table rapide, les gars. Est-ce qu'il y aura une troisième édition d'un club de la Ligue nationale à Atlanta? Richard, je commence avec toi.
Écoute, je pense que c'est très favorable. D'ailleurs, le groupe d'Hanson Carter a formellement fait la demande. Faut pas l'oublier. Je pense que Gary Bettman est très, très favorable. Ça, c'est un point qui est important. Il y a certaines villes qui aimeraient ça revenir dans la Ligue nationale de hockey puis que la porte n'est pas trop ouverte. Dans ce cas-ci, elle est grande ouverte. On va avoir un œil très, 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 très proche du dossier des Coyotes. Moi, de la manière que tout ça est en train de se dérouler, là, ça va très, très vite. Je ne serais pas surpris si les Coyotes déménageaient à Atlanta.
Ben là, les Coyotes sont supposés déménager à Phoenix, Salt Lake City, là, c'est Atlanta. Et quand ils vont avoir plusieurs places qui sont supposées d'aller. OK, parfait. Simon Olivier, est-ce qu'il y aura un club, une troisième édition à Atlanta pour la Ligue nationale?
100%. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans ce dossier-là. Et là, on parlait d'Anton Carter parce qu'il est devenu le visage d'un projet concret. Mais il y a Kevin Weeks, le journaliste et informateur de NHL Network, qui donne des informations sur ce dossier-là de manière très périodique depuis probablement plus d'un an, qui donne chaque étape du nouveau du projet d'Arena au quartier. J'ai pas suivi ça de si près que ça, mais c'est toujours dans l'air. Et Gary Bettman adore les gros marchés et se nave quand ça marche pas dans les gros marchés et ça chante sur les gros marchés. Atlanta, c'en est un gros marché, c'est un marché central. Donc oui, je pense que puis la Ligue, ça devient... Tu sais, on n'arrête pas. Gary Bettman fait l'espèce de valse hésitation sur non, il n'y aura pas d'expansion. Il va en avoir une expansion et Atlanta me semble la ville tout désignée.
Antoine, est-ce que tu partages l'idée de Richard et Simon Olivier?
Ben, écoute, est-ce qu'il va avoir une expansion? Oui, je pense que oui. Je pense que les Coyotes sont là pour rester, sincèrement. Je pense que Gary Bettman, puis souvent on le dit, il y a des marchés aux États-Unis. En fait, la Ligue nationale est la ligue qui a le moins d'équipes en Amérique, aux États-Unis. Donc, si t'es un propriétaire, tu vois les marchés puis le potentiel de croissance aux États-Unis, c'est sûr que tu te dis, ben, on a la place pour d'autres équipes. Puis, quand tu regardes le développement aux États-Unis du hockey, tu as des bons jeunes aussi qui arrivent du fait de ce développement. On a juste à penser à la Californie et ainsi de suite, puis à ce que la Ligue nationale a fait durant les 20-25 dernières années. Donc, ça a été bénéfique. Donc, c'est officiel que la Ligue y regarde pour d'autres secteurs. Je pense sincèrement, puis je pense que tu en as déjà parlé, Jérémy, pour moi, la Ligue nationale va devoir réévaluer son format de séries éliminatoires si c'est le cas, si c'est ça qui s'en vient. Parce qu'avec le format actuel, et puis c'est ça qui est le fun du hockey, c'est que tu as une chance au moins de jouer pour la Coupe. Donc, de réévaluer tout ça. Maintenant, de voir d'autres marchés arriver aux États-Unis, je trouve qu'il faudrait qu'ils donnent un petit bonbon au Canada, puis à Québec notamment, parce que j'y pense sincèrement que si tu es pour rajouter deux équipes ou faire une expo ou quatre équipes éventuellement, ben, tu n'auras pas le choix de regarder sincèrement un marché comme Québec qui est prêt depuis des années. Bien sûr, je vous entends déjà dire « Ouais, mais ça va prendre un consortium. » Je pense qu'il y a assez de passionnés de hockey qui est capable de s'unir pour ramener une équipe à Québec éventuellement.
Oui, mais en premier, ça va prendre de l'intérêt, Antoine. De l'intérêt de la part de la Ligue, d'intérêt de la part de Gary Bettman et présentement, ça.
Oui, mais à quatre équipes, il y a de la place. Là.
Non, mais je l'ai trouvé la solution. Si tu veux faire plaisir aux francophones et tu veux faire plaisir à Gary Bettman, t'appelles ça les Nordiques de bâton rouge en Nouvelle-Orléans. Puis garde. c'est comme ça. Tout le monde est heureux avec les chandails rouges, mais avec le fleur de lys. Hey, hein, tout est dans tout. Voilà ce qui complète cette édition de sortie. Petite zone de 5e saison, épisode 45 avec Simon, Olivier et Laurent. Ça fait un plaisir encore une fois.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup. Richard Labbé, ça fait un plaisir, Richard. Merci.
Plaisir, Jérémy.
Antoine Roussel, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut les gars. Bonne journée. Bye-bye.
Voilà, c'est déjà tout. Nous, on se parle lundi, le 18 mars.